Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins vivifient quotidiennement des métaphores grâce à Jean Danielou, Antoine Ravon, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, à l'art de lire les textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation de Grenouille Coassante, Midia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son narrative Claire Levasseur. À 10h47, ce sera les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine qui vous donnera envie de lire le dernier ouvrage d'Isabelle Garot, Art, Monnaie et Capital, aux éditions La Ville Brûle. Paul Ricoeur, suite et fin. Après François Doss, qui lundi a dessiné pour vous la trajectoire intellectuelle du philosophe, Myriam Revaud-Allonne, qui nous a initié au paradoxe du politique mardi, et l'anthropologie philosophique ricœurienne d'après Johann Michel hier mercredi, c'est en beauté et en poésie que nous allons terminer cette semaine en compagnie de Michael Fessel, qui vient nous expliquer en quel sens l'imagination est la faculté et le thème qui permet de penser l'unité de la pensée de Ricoeur.
Voulez-vous, Théodore, que je m'arrête encore à vous représenter les illusions et les fantômes d'une imagination révoltée contre la raison, soutenue et animée par les passions? Ces fantômes caressants qui nous séduisent, ces fantômes terribles qui nous font peur, ces monstres de toute manière qui naissent de notre trouble, qui croissent et se multiplient en un moment? Pure chimère dont notre esprit se repaît et s'occupe avec le dernier empressement. Car notre imagination trouve bien plus de réalité dans les spectres à qui elle donne la naissance que dans les idées nécessaires et immuables de la vérité éternelle. C'est qu'ils la frappent, ces spectres dangereux, et que ces idées ne la touchent pas. De quel usage peut être une qualité si déréglée, une folle qui se plaît à faire la folle, une volage qu'on a tant de peine à fixer, une insolente qui ne craint point de nous interrompre dans nos plus sérieux commerces avec la raison? Je vous avoue néanmoins que notre imagination peut nous rendre l'esprit attentif, car elle a tant de charme et d'empire sur lui qu'elle le fait penser volontiers à ce qui la touche. Mais outre qu'elle ne peut avoir de rapport qu'aux idées qui représentent les corps, elle est si sujette à l'illusion et si emportée que si on ne la gourmande sans cesse, si on ne règle pas ses mouvements et ses saillies, elle vous transporte en un instant dans le pays des chimères.
Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey. Just as I think of you.
Bonjour Michael Fessel.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Vous êtes professeur de philosophie à l'école polytechnique. Vous êtes aussi l'auteur d'une excellente anthologie consacrée à Paul Ricoeur, le co-auteur avec Fabien Lamouche, qu'on trouve en Point Seuil. Et vous avez dirigé le dossier consacré à Ricoeur toujours, que l'on trouve, enfin le dossier Esprit de la revue Esprit, consacré à Paul Ricoeur, qui est disponible en ce moment. Alors nous avons vu cette semaine, lundi, mardi et hier, qu'il n'y avait pas vraiment d'unité dans la pensée de Ricoeur, puisque celui-ci, plutôt que de faire système, était un lecteur, un interprète d'autres textes que les siens. Or vous affirmez dans la préface de l'anthologie que sans doute, s'il y avait une unité dans la pensée de Ricoeur, ce serait l'imagination. Alors comment celle que Malebranche qualifie de folle qui se plaît à faire la folle, l'imagination donc, peut-elle être l'unité de la pensée de Ricoeur?
Oui, effectivement, il n'y a pas seulement chez Ricoeur, je crois, une unité de méthode. On dit souvent que c'est un herméneute, un interprète des textes. Il y a aussi une unité thématique. Et en réalité, depuis ses premiers ouvrages, La symbolique du mal ou L'homme faillible, jusqu'au dernier sur la mémoire, il me semble que cette unité, on la trouve dans une réflexion longue, patiente, et qui connaît d'ailleurs des évolutions, sur l'imagination. Je dirais que le geste de Ricoeur, si on voulait vraiment le globaliser en une phrase, consiste un peu à rompre avec la tentation iconoclaste de la philosophie classique, dont le texte de Malebranche qui a été lu est tout à fait révélateur, c'est-à-dire à montrer que l'imagination n'est pas cette faculté de l'erreur ou et de l'illusion qu'on veut bien présenter. ou que l'on, en général, que l'on condamne, parce que Ricoeur veut montrer que l'image, ce n'est pas ce qu'on dit d'habitude d'elle, c'est-à-dire moins qu'une sensation et moins qu'un concept, moins qu'une perception, moins qu'une connaissance. L'image, à condition évidemment de la redéfinir, l'image, c'est le moyen qu'a le sujet de se représenter un monde, d'abord. Donc c'est une manière de connaître le réel et c'est une manière aussi d'agir sur ce monde. Et je crois que dans cette tension entre la connaissance et l'action, il y a tout ce que Ricoeur dénote sous le titre de « pouvoir de l'imagination ». L'imagination, pour lui, est une manière de se figurer le réel autrement qu'il n'est, donc aussi bien d'intervenir sur lui.
L'imagination serait donc non pas l'autre de la raison, mais une autre manière de non seulement de faire sens, puisque l'imagination a un langage peut-être qui lui est propre, mais surtout de dire le monde. Et c'est ça sans doute qui est important, c'est que chez Ricoeur, l'imagination fait toujours référence à quelque chose. Non seulement elle exprime un sens, mais elle dit quelque chose, elle désigne quelque chose. Et ici, on retrouve sans doute la notion d'intentionnalité qui est propre à la phénoménologie, à savoir le sens est toujours, désigne toujours un sens qui est extérieur à celui qui nomme ce sens.
L'imagination a un sens et une référence, je dirais. L'imagination voilà. a un sens, ça c'est peut-être l'héritage kantien, c'est-à-dire que nous ne pouvons en réalité avoir une connaissance qu'à l'usage ou qu'à, grâce à ce qu'il a, Kant appelait le schématisme, et c'est un thème que Ricoeur reprend, c'est-à-dire en réalité, un concept demeure abstrait aussi longtemps, donc il n'est pas encore une connaissance, aussi longtemps qu'il n'est pas associé à une image qui renvoie à une réalité sensible. Et puis, alors là, Ricoeur, effectivement, est dans la tradition phénoménologique, l'imagination a aussi une référence, c'est-à-dire que l'imagination, en particulier, on évoquera certainement ces aspects, l'imagination à l'œuvre dans les textes poétiques, cette imagination n'est pas simplement ce qui nous permet de comprendre le réel, c'est ce qui nous permet de nous représenter le monde, c'est-à-dire qu'il y a à l'horizon, en quelque sorte, des textes poétiques, que ce soit des récits littéraires ou que ce soit même des poèmes, des métaphores, il y a à l'horizon de ces textes une référence à un monde, que Ricoeur appelle d'ailleurs le monde du texte, et ce monde du texte, précisément, n'existe que d'être imaginé. Donc l'imagination, c'est ce qui nous permet de viser un réel, certes qui n'est pas le réel de la sensation, qui n'est pas non plus le réel de la science, mais qui a tout de même une réalité, un apparaître, en quelque sorte, phénoménologique, une intentionnalité, comme vous l'avez rappelé, effectivement. Et de ce point de vue-là, l'imagination constitue véritablement le monde tel que le sujet peut se le représenter.
Alors si la phénoménologie est le premier ancrage de cette insistance sur l'imagination, Ricoeur n'a pas pour autant produit une forme de phénoménologie de l'imagination comme l'a fait Sartre, par exemple.
Oui. C'est juste parce que pour Sartre, l'imaginaire, c'est fondamentalement la capacité qu'a le sujet de néantiser le réel, c'est-à-dire de produire en réalité une mise à distance, une relativisation de la perception par le pouvoir de l'imagination. Sartre aurait insisté sur une fonction de l'imagination que Ricoeur reconnaît, mais dont il ne fait pas la fonction exclusive, qu'on pourrait appeler la fonction utopique. L'imagination, c'est ce qui permet de nous mettre en retrait du monde. J'imagine, et par conséquent, le réel cesse d'être consistant dans la perspective de Sartre. Alors que Ricoeur, effectivement, ne fait pas au sens strict une phénoménologie de l'imagination, en tous les cas dans les œuvres publiées, parce que si on regarde un peu les cours, on sait qu'il y a eu, et on va essayer d'ailleurs de les publier, on sait qu'il y a eu des cours sur l'image. Mais ce qui l'intéresse, c'est plutôt de savoir comment l'image intervient dans la manière dont nous nous représentons les choses. Et c'est pour cela qu'il rapproche. Il dépsychologise l'image en la rapprochant du texte, étrangement. C'est là que intervient ce qu'il appelle lui-même la greffe de l'herméneutique sur la phénoménologie. Non plus simplement partir des structures du sujet et de la perception elle-même, montrer comment le sujet, par son intentionnalité, perçoit le monde, mais montrer comment, par la lecture du texte, par l'interprétation du texte, s'ouvre un champ pour de nouvelles perceptions. Il y a dans cette articulation entre phénoménologie, disons théorie de la description du monde, et herméneutique, théorie de l'interprétation du monde, ce qui est certainement la méthode propre de Paul Ricoeur.
Moi, j'ai rencontré le problème du mal au premier abord comme un appendice à mon premier travail qui était sur la volonté, donc le volontaire et l'involontaire. Et la mauvaise volonté, si l'on peut dire, la volonté mauvaise, apparaissait comme une énigme non résolue dans ce premier travail. Et c'est cette énigme de la volonté mauvaise, bon, du mal, qui m'a amené au fond à changer de méthode, ou en tout cas à élargir ma première méthode, qui était donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, descriptive, essayer de trouver le noyau conceptuel d'une expérience. Mais pour aborder l'expérience du mal, il fallait faire un grand détour par des grands récits, des mythes, des symboles. Et cela a imposé donc d'ajouter à une méthode descriptive, donc que nous venons d'appeler phénoménologique, une méthode d'interprétation surtout dans la mesure où ces grands récits, ces mythes sont recueillis dans des textes qui sont aussi le texte de notre culture. Alors là, il fallait une méthode d'interprétation, ce qu'on appelle donc herméneutique. Donc l'herméneutique n'est pas autre chose que la discipline, la science de l'interprétation. Et alors c'est cette greffe de l'herméneutique sur la phénoménologie, ou disons de l'interprétation sur la description, qui a été le tournant philosophique principal.
Dans un poème, les images s'immobilisaient, on les accuserait d'être des idées. Et cependant, il est des images insistantes, des images qui centralisent de vastes régions poétiques, des images qui ont des racines si profondes dans le psychisme humain qu'on doit chercher, qu'on peut chercher longtemps, les raisons d'une telle profondeur. Examiner dans cette perspective des images privilégiées, l'imagination poétique se révèle d'une portée psychologique incalculable. Elle nous aide à revivre l'inscription du langage au centre même de l'être humain.
Michael Fessel, continuons de préciser ce que Ricœur entend par imagination, puisque je le signale, Ricœur a très peu écrit sur l'imagination en tant que telle. Il y a un seul texte à ma connaissance qu'il a consacré à l'imagination, c'était en 1976. Nous venons d'entendre la voix de Bachelard, qui donc dans ses causeries, là c'était 52-54, bien avant le texte de Ricœur sur l'imagination, définit celle-ci comme étant la source même non seulement d'une inspiration poétique, mais aussi d'un rapport au monde. Mais il me semble qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que dans l'extrait qu'on a entendu, Bachelard dit que l'imagination poétique avait une portée psychologique absolument énorme. Or, vous l'avez dit vous-même, chez Ricœur, l'imagination, y compris l'imagination poétique, n'est pas de l'ordre psychologique.
Oui, le lien avec Bachelard, c'est d'interroger effectivement l'imagination en rapport avec le langage poétique. Mais là où Ricœur va plus loin certainement que Bachelard, c'est dans la dépsychologisation de cette faculté qu'est l'imagination, au nom de laquelle, psychologisation au nom de laquelle on l'a condamnée en règle générale, c'est-à-dire parce qu'on comparait l'imagination à l'entendement ou même à la perception. Et dans les deux cas, encore une fois, elle était en retrait puisqu'elle ne donne ni l'objet dans sa réalité ou sa concrétude sensible, ni le concept dans sa définition. Alors ce qui intéresse Ricœur, ou l'opération à laquelle il se livre en réalité, la première, c'est de voir comment dans la lecture d'un texte poétique intervient l'imagination, non pas tellement d'ailleurs celle du lecteur ici que celle même de l'auteur dans un premier temps. Hein. C'est-à-dire, pour prendre peut-être un exemple qui permettra d'éclairer la chose, le thème premier que Ricœur interroge par rapport à cette imagination, ou au thème de l'imagination, c'est la métaphore. Et il pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une métaphore. Et une métaphore, évidemment, c'est un objet de rhétorique, c'est un objet poétique, c'est une trope, comme on le dit, une figure de style, si l'on préfère, qui peut faire l'objet d'une étude littéraire, disons. Mais chez Ricœur, ce n'est pas seulement cela. La métaphore, c'est fondamentalement, et là il reprend d'une certaine manière la perspective d'Aristote dans la poétique, c'est la manière dont un auteur, un texte plus exactement, rapproche une phrase, rapproche deux termes issus d'univers sémantiques absolument distincts, absolument opposés. Prenons l'exemple qui est celui que Ricœur cite le plus souvent, qui est illustré d'ailleurs par Aristote, lorsque je dis par exemple la vieillesse et le soir de la vie. Alors lorsque je dis la vieillesse et le soir de la vie, j'emprunte à deux univers sémantiques, l'univers de la temporalité du jour, le soir d'une journée, et puis l'univers de la temporalité d'une vie. Et l'idée de Ricœur, c'est que en transportant d'un univers sémantique à l'autre, de celui de la temporalité de la journée à celle de la temporalité de toute une vie, je produis ce qu'il appelle un choc sémantique ou une innovation sémantique, et c'est là qu'intervient déjà l'imagination, parce que l'imagination, c'est ici le rapport tout à fait bizarre, c'est une attribution bizarre. Quel est le rapport entre la vie tout entière et une journée? L'attribution bizarre qui permet de mieux comprendre ce qu'est la vie, de mieux comprendre ce qu'est la vieillesse, éventuellement de même mieux comprendre ce que nous ne comprendrons jamais véritablement, c'est-à-dire la mort, par précisément ou grâce à cet outil qu'est l'imagination poétique. L'imagination poétique nous permet de voir littéralement la vie entière comme une journée qui connaîtrait son matin, son midi et sa soirée, qui serait justement la vieillesse. Donc l'imagination, c'est un procédé linguistique d'abord, pour Ricoeur, mais c'est un procédé linguistique qui a tout de même une finalité phénoménologique, c'est là qu'on retrouve l'articulation phénoménologie-herméneutique, puisque le but, c'est en somme de nous permettre poétiquement d'accéder à ce que le concept nous refuse, d'une certaine manière, à savoir une connaissance de la vie ou du monde sensible que seul l'imaginaire permet de configurer.
Voilà, et là on retrouve ce que disait Bachelard juste avant, à savoir que si les images venaient à s'immobiliser dans l'esprit, elles deviendraient des idées. Oui. La métaphore est l'image en mouvement par excellence, puisque vous parliez d'événement de la pensée, ce choc que crée la métaphore montre bien ici que l'imagination est toujours insérée dans un langage. C'est une manière de dire quelque chose et non pas une manière de désigner, une forme de dynamisme de la pensée au sein de la métaphore.
Effectivement, d'où le titre d'ailleurs du livre de Ricoeur, La métaphore vive, c'est-à-dire il y a des métaphores mortes, il y a des métaphores qui ne nous apprennent plus rien, qui ne nous disent plus rien, littéralement, à force d'être rabâchés, à force de ne plus être littéralement entendus comme métaphores. Et tout le projet de Ricoeur, c'est de montrer qu'il y a encore des métaphores vives. Il faut peut-être rappeler que ce texte date des années 70, à un moment où il y avait la charge de Jacques Derrida contre la métaphore, la thèse de la métaphore blanche, selon laquelle la métaphore est toujours métaphysique. Donc dans la condamnation de la métaphysique, on condamne aussi cette figure de style qu'est la métaphore. Si Ricoeur écrit la métaphore vive, c'est aussi pour réhabiliter le langage poétique en tant qu'il peut nous apprendre quelque chose sur le réel. Et par conséquent, retrouver la vivacité des métaphores derrière les usages ordinaires, habituels et parfois, traditionnels même du langage, retrouver la vivacité de la métaphore, c'est précisément, me semble-t-il, retrouver dans le langage poétique la puissance de l'imaginaire, c'est-à-dire sa capacité à nous faire figurer le monde, le réel, autrement que les concepts ou que simplement la perception nous le permette. Et vous avez évoqué d'ailleurs, et dans le texte, dans l'intervention qu'on a entendue de Ricoeur, il rappelle que la question de l'herméneutique, il l'a rencontrée à propos du mal.
Oui, ça c'était un extrait de l'entretien qu'il accordait à Olivier Abel en 91 et qu'on trouve aux éditions Montparnasse.
Voilà, et il l'a rencontrée à propos du mal donc dans les années 45-50, lorsqu'il écrit la symbolique du mal, parce que sa question, c'est la question traditionnelle, qu'est-ce que la culpabilité, qu'est-ce que la conscience coupable, et il se rend compte très vite qu'en réalité, nous n'avons accès à la conscience coupable qu'à travers les textes, les témoignages, d'où la symbolique du mal, bref, à travers ce qu'il appelle à ce moment-là le langage de l'aveu. Et ce langage est symbolique de part en part, c'est-à-dire celui qui dit l'aveu, que ce soit dans les textes bibliques, celui qui le dit aussi dans les textes tragiques, déjà on voit l'aspect littéraire et poétique important, celui qui dit ou qui avoue sa faute, le fait sur le mode où en recourant à des images, l'impureté, je suis impur, je suis souillé par la faute. Bon. Et donc par conséquent, il n'y a pas d'accès, ça c'est un des leitmotifs de Ricoeur, il n'y a pas d'accès direct à la conscience intentionnelle, il n'y a pas d'accès direct à la subjectivité, il faut emprunter le long détour par les textes, par les symboles, par les images, qui vont permettre, en interprétant ces symboles, de retrouver, il ne faut jamais oublier que pour Ricoeur, le but, me semble-t-il, en tous les cas, c'est de retrouver la conscience et la phénoménologie, pas simplement d'une certaine manière de s'enfermer dans l'interprétation des textes ou des métaphores, mais de montrer dans quelle mesure ce langage poétique, cet usage poétique du langage, cet usage imaginaire du langage, peut nous en apprendre plus sur ce qu'est l'homme, finalement, vous avez parlé, je crois, hier de l'anthropologie ricœurienne, sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'est le monde.
Donc le geste poétique ne serait pas une autre manière de dire ce que la philosophie peut dire, mais au contraire, c'est une manière unique de dire quelque chose qui, sans cela, ne serait jamais exprimé.
Oui, il y a un autre philosophe qu'étrangement, d'ailleurs, Paul Ricoeur n'a pas cité, lui qui était pourtant un érudit, c'est Hans Blumenberg, qui parlait à propos de la métaphore de l'inconceptuabilité, c'est-à-dire que nous usons des métaphores là où aucun concept n'est disponible, pour dire précisément la vieillesse de la vie, ce moment qui est indiscernable à l'aide de nos catégories. Eh bien, nous usons et je crois que Ricoeur aurait été, si je peux parler ici à sa place, puisqu'il ne cite pas Blumenberg, aurait été d'accord avec cette conception, c'est-à-dire qui d'ailleurs est aussi empruntée à Kant. Là où nous n'avons pas de schème, là où nous n'avons pas de concept, de connaissance, il reste néanmoins des symboles. C'est-à-dire que l'image, c'est ce qui, en quelque sorte, prend sur elle d'exprimer ce qui serait dans un cadre conceptuel dit ineffable, et qu'il n'y a donc pas une fonction, je dirais simplement résiduelle de l'imagination, mais au contraire une fonction constitutive de l'imagination pour accéder à certaines réalités. C'est par exemple le cas dans Temps et récit, on en reparlera peut-être, pour accéder au temps, grande question philosophique fondamentale dans la philosophie occidentale. Ricoeur, tout le projet de cette immense entreprise qu'est Temps et récit, consiste à montrer que précisément c'est par l'imagination imagination narrative, en l'occurrence, que nous accédons à une conception du temps ou à une pensée du temps que la philosophie elle-même n'est pas capable de produire par ses propres moyens.
Alors, avant d'en venir au récit, comment distinguez-vous, puisque vous avez utilisé les termes de manière indissociée, il me semble, indistinguer le symbole de la métaphore et de l'image?
C'est-à-dire que Ricoeur entend par symbole au début de son œuvre, le symbole, c'est simplement l'expression à double entente, c'est-à-dire à la fois ce qui a un sens littéral et ce qui a un sens figuré. Et tout le projet d'une symbolique du mal, par exemple, c'est de partir du sens figuré pour essayer de retrouver sa signification poétique ou philosophique. Alors que la métaphore vient plus tard dans l'étude ricoeurienne, je dirais à un moment où Ricoeur a enrichi son analyse et sa carrière de pensée ou de penseur, l'a enrichi par toute une série de détours par la philosophie analytique, la philosophie linguistique. Et par conséquent, on pourrait dire la métaphore, c'est une figure du symbolisme, et c'est une figure spécifique, qui a toute une histoire évidemment depuis Aristote, et qui confronte la philosophie à la rhétorique d'une part, quand on utilise des métaphores pour convaincre dans un premier lieu, pour donner un choc sémantique et d'une certaine manière pour paralyser l'audition de l'auteur de manière à ce qu'il soit en quelque sorte convaincu sans réfléchir. Donc il y a une rhétorique de la métaphore, il y a une poétique de la métaphore, bien évidemment, la métaphore est un des procédés, si je puis dire, favoris des poètes. Et puis il y a, et c'est ça c'est la thèse ricoeurienne, une référence de la métaphore, au sens où lorsque j'utilise des métaphores, ou plutôt lorsque j'en lis, eh bien en réalité, je me porte à me figurer un monde qui, de toute autre manière, me serait infigurable. Lorsque Baudelaire compare ou parle des grands temples, des temples qui constituent la nature, évidemment, il rapproche la nature de l'architecture, ce qui n'apparaîtrait pas comme tout à fait, les correspondances n'apparaîtraient pas de manière évidente à un penseur philosophique, par exemple à quelqu'un qui envisagerait la nature simplement comme de la matière étendue. Mais le geste poétique consiste à nous faire, aux yeux de Ricoeur, à nous faire d'abord comprendre, puis in fine, c'est ce qui est peut-être le plus difficile, percevoir, à travers la lecture, nous faire percevoir la nature comme si elle était une architecture, comme si elle était elle-même un temple d'une certaine manière. Et par conséquent, cette vision, il y a une vision au terme de l'imagination. L'imagination n'est pas seulement une fiction, elle produit une vision, et c'est là que Ricoeur redevient, si je puis dire, phénoménologue, une vision du monde de la vie, ce que les phénoménologues appellent le monde de la vie, c'est-à-dire le monde en deçà des objectivations scientifiques, en deçà des habitudes pratiques, d'une certaine manière, le monde tel que nous pouvons le redécouvrir à nouveau frais grâce à la philosophie, mais une philosophie qui, évidemment, est renseignée, enseignée par la littérature, par la tragédie, par la poétique.
Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gent marécageuse, gent fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit. Une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière. Et leur troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire, « Et quoi, votre désir à ces lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. »
Les grenouilles se promènent dans le bois, pendant que le rhinocéros n'y est pas. La première saute en haut. La deuxième saute plus haut. La troisième saute en l'air. La dernière arrive derrière.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Paul Ricoeur. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Michael Fessel qui nous parle aujourd'hui donc de la métaphore vive et de l'imagination chez Ricoeur. On vient d'entendre Michael Fessel la lecture de la fable de La Fontaine, Les grenouilles qui demandent un roi. Alors, ce serait intéressant de savoir ici s'il s'agit vraiment de métaphores, puisque les grenouilles symbolisent ici sans doute le peuple, elles l'incarnent, elles lui donnent voix, et donc font du coup du peuple une collectivité coassante qui se plaint, qui n'est jamais satisfait du roi qu'on lui envoie. Mais il y a une morale derrière cela, donc je ne suis pas sûre que ça corresponde à la vivacité de la métaphore telle que Bachelard l'entend.
Peut-être, parce que d'abord le transport va dans les deux sens. Hein. On applique la majesté ou la royauté aux grenouilles et puis l'animalité aux hommes. Pour Ricoeur, il y a tout de même une fonction pratique aussi de l'imagination, c'est-à-dire que voir les choses autrement, en l'occurrence voir la demande de royauté comme une tribu, si j'ose dire, de grenouilles, là encore une métaphore, comme une communauté de grenouilles, c'est peut-être aussi, et certainement d'ailleurs dans l'esprit de La Fontaine, relativiser sur un mode ironique cet attachement du peuple à l'époque où il écrit au monarque. Donc il y a quand même dans la métaphore et dans l'imaginaire d'une manière générale une manière d'explorer le possible qui a une fonction utopique d'une certaine manière, ici humoristique ou critique, qui nous permet de voir le réel comme il est d'une certaine manière et comme il ne devrait pas être si nous étions plus moralement ou politiquement même responsables.
Mais ce que La Fontaine nous permet de penser, en tout cas avec cette fable aussi, c'est le lien entre la métaphore et le récit. Puisqu'ici, s'il ne s'agit pas d'une simple image métaphorique qui exprimerait un sens inédit, mais il s'agit d'un récit, c'est-à-dire qu'il y a une narration, oui. Une histoire nous est contée. Et dans l'importance du récit, on y entend une forme de configuration du temps. C'est une manière aussi de donner à entendre quelque chose, non pas comme une simple idée, là pour reprendre Bachelard, mais vraiment en référence à une expérience vécue qui passe forcément par le temps.
Effectivement, la fable, c'est l'un des grands thèmes de Ricoeur, donc il extrapole d'ailleurs au roman. Et la métaphore vive et temps et récit sont, il lui-même le dit, deux livres jumeaux. C'est-à-dire qu'après s'être intéressé en quelque sorte à la fonction d'une figure, et une figure majeure de la poétique, il s'intéresse à la narration, au récit comme tel. Mais il ne le fait pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ce qu'on dit parfois d'ailleurs, il ne le fait pas pour, en quelque sorte, construire une somme. Hein. C'est un livre qui fait quelque chose comme...
Temps et récit, oui, pages, en trois volumes, en point seuil.
Comme faire une somme sur les problèmes liés à la narratologie, liés au récit. Il le fait dans un cadre philosophique très précis, qui est un cadre classique d'ailleurs, qu'est-ce que le temps ? Et il montre qu'il y a deux grandes conceptions, deux grandes manières de penser le temps ou de l'appréhender que l'on retrouve tout au long de l'histoire de la philosophie. D'une part, on conçoit le temps comme un attribut de la nature, c'est-à-dire c'est le temps du monde, c'est le temps dans lequel se produisent les événements. Ça, c'est la tradition qui est ouverte par Aristote et que l'on retrouvera aux yeux de Ricoeur chez Kant ou dans la physique même. Et puis, il y a le temps de l'âme. C'est-à-dire le temps n'est pas le vecteur du mouvement des choses, mais le temps c'est quelque chose qui se produit à l'intérieur de l'âme. Et là c'est la tradition ouverte, c'est le temps psychique par Augustin que l'on retrouvera dans la phénoménologie. Et la thèse tout à fait audacieuse de Ricoeur, c'est de dire que l'on ne peut pas sortir de cette aporie entre deux conceptions du temps, le temps hors de moi, le temps en moi, pour faire vite. Autrement, on ne peut pas sortir de cette aporie par des moyens philosophiques. Il faut pour cela... Pour faire des hypothèses, pour sortir de cette aporie, il faut se référer à l'art de mettre en scène le temps, de le raconter, cet art qui est le propre du récit depuis toujours, qu'il soit récit d'épopée ou, dans la modernité, roman. Et on va assister progressivement, même s'il y a aussi la question du temps historique qui est tout à fait présente et du récit historique dans l'œuvre de Ricoeur, mais pour en rester à l'imagination, c'est le récit littéraire qui importe. Il va faire une analyse de la temporalité dans trois grands romans majeurs, du XXe siècle, d'une part « À la recherche du temps perdu » de Proust, « Mrs. Dalloway » de Virginia Woolf et « La montagne magique » de Thomas Mann. Et montrer que dans ces trois romans, qui sont d'ailleurs à peu près contemporains, tous sont en lien avec la Première Guerre mondiale, eh bien il y a une manière de mettre ensemble, de faire tenir ensemble, c'est ça l'intrigue, c'est faire tenir ensemble des choses hétérogènes, de faire tenir ensemble le temps de la vie, le temps de la psychologie et le temps extérieur, le temps du monde, en l'occurrence pour ces trois romans, le temps de la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver trouvé pour, aux yeux de Ricoeur, dans une interprétation assez forte, je crois, de ses œuvres, une manière de dire le temps, d'imaginer le temps, je dis bien de l'imaginer, pas le conceptualiser, pas le penser, qui va permettre une sorte de synthèse entre le temps que je subis, celui qui est hors de moi, que je vois ou que je regarde, mais que je ne vis pas, et le temps intérieur, qui est le grand thème, évidemment, par exemple, de Mrs. Dalloway, le temps intérieur qui est celui de l'âme. Et d'une certaine manière, ici, l'imagination est clairement en jeu, en ce sens que ce temps qui est un mixte de temps du monde et de temps de l'âme, puisque je ne peux pas le conceptualiser ou le définir ou le comprendre par des moyens philosophiques, je peux néanmoins l'imaginer grâce à la lecture de ces récits, de ces romans.
Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'à l'imagination, Ricoeur rajoute la fiction avec l'exemple de la littérature. C'est-à-dire que même si Ricoeur est le penseur des détours et de la médiation pour mieux dire ce qui est, ici, c'est comme s'il s'éloignait de 2 degrés de la réalité à travers non seulement, pas la raison, mais l'imagination qui elle-même va inventer quelque chose à travers la fiction, et que c'est de cette manière-là seulement que non, on peut réussir à dire quelque chose, peut-être la vérité, je ne sais pas, mais en tout cas à dire quelque chose de juste sur ce qu'est le temps.
Ben c'est tout le paradoxe de Ricoeur, mais un paradoxe assumé, c'est-à-dire qu'il y a pour lui, au fond, si on voulait simplifier, 2 moments dans le discours, tout discours d'ailleurs, mais aussi bien dans le discours poétique. Il y a un premier moment où le signe nous met, le signe au sens linguistique du terme, nous met en retrait du monde. Hein, c'est le moment, si on peut dire, malarméen. Hein. La rose réelle n'est pas présente dans le signe rose, mais, et alors ça c'est évidemment ce qu'il appelle sa véhémence ontologique, ça veut dire la thèse selon laquelle le langage est toujours d'engage sur quelque chose, c'est toujours d'une manière ou d'une autre, même indirecte, même métaphorique, même narrative, un langage sur le monde. Le deuxième temps du discours, c'est le moment où il y a une sorte de reversion, si j'ose dire, du signe au monde, c'est-à-dire que le signe, il n'y a pas de monde du signe pour Ricoeur, il n'y a pas de monde du langage, il n'est pas nominaliste en ce sens. Le signe est plus qu'un instrument, un moyen, une fonction de révélation du monde. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un roman? Évidemment, un roman ne nous dit pas le réel, plus exactement, un roman ne nous raconte pas le réel. En revanche, il nous raconte un monde possible, qui est le monde du texte, et de la confrontation, c'est ça la lecture, de la confrontation entre ce monde possible mis en scène ou mis en forme par le roman d'une part, et d'autre part le monde du lecteur, va naître ou vont naître de nouvelles perceptions, de nouvelles manières d'envisager le réel, et de nouvelles manières, c'est quand même aussi ça qui intéresse Ricoeur, de nouvelles manières d'agir.
Moi je ne mettrai pas tellement l'accent sur le sens caché derrière le texte, parce que le texte est muet tant que je ne le fais pas parler, et en ce sens-là, le véritable sens est le sens prospectif. Je veux dire que le sens du texte n'est pas derrière le texte, il est en avant du texte, par la possibilité même de me projeter dans le texte. Et là, je crois qu'il faudrait faire intervenir, je l'ai fait tardivement, cela, à l'époque où j'ai écrit « Temps et récits », et déjà dans la métaphore vive, la place du lecteur. Parce que ce que nous négligeons trop souvent quand nous parlons quel est le sens d'un texte, et quel est le sens véritable d'un texte, nous oublions toujours qu'il y a un rapport lecture-écriture. Et que le lecteur aborde un texte avec des attentes. Ces attentes sont remplies ou déçues, mais il y a ce jeu, n'est-ce pas, de l'attente et du texte.
Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre. Et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs, car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. Mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes, de sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela. Si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j'ai écrits. Des divergences possibles à cet égard ne devant pas du reste provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même. Et changeant à chaque instant de comparaison selon que je me représentais mieux et plus matériellement la besogne à laquelle je me livrerais, je pensais que sur ma grande table de bois blanc, regardée par Françoise, comme tous les êtres sans prétention qui vivent à côté de nous ont une certaine intuition de nos tâches, et j'avais assez oublié Albertine pour avoir pardonné à Françoise ce qu'elle avait pu faire contre elle, je travaillerais auprès d'elle, et presque comme elle, du moins comme elle faisait autrefois, si vieille maintenant elle n'y voyait plus goutte, car, épinglant ici un feuillet supplémentaire, je bâtirais mon livre. Je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe.
La voix de Ricoeur, entendue juste avant la lecture du texte donc de Proust par André Dussolier, Michael Fessel, nous rappelait donc l'importance non seulement de la lecture, mais du lecteur. Vient ici insister sur un point, et je pense qu'il faut qu'on y reste un petit peu. Le texte dit quelque chose du monde, la littérature est une manière de dire quelque chose sur le monde, mais elle ne s'adresse pas à n'importe qui, il y a toujours un lecteur, et c'est ce que le texte de Proust venait illustrer à merveille. Le narrateur le dit bien, il dit que son œuvre s'adresse à quelqu'un, peut-être ne va-t-elle pas atteindre cette personne-là, cela dépendra aussi du contexte dans lequel il s'inscrit, oui. Et ça dépendra aussi tout simplement d'une forme de personnalité ou du moment de la vie où se situe le lecteur. On retrouve ici une double intentionnalité. La littérature dit quelque chose du monde, mais elle dit quelque chose à quelqu'un, à celui qui lit. Il y a comme un triangle ici.
Exactement. La lecture, c'est ce qui fait du texte un événement. C'est ce qui transforme le texte en événement. C'est-à-dire que là, on retrouve ce constante chez Ricoeur. C'est-à-dire, en recevant l'exigence structuraliste selon laquelle, disons, le texte est autosuffisant, et donc il faut l'expliquer en quelque sorte de manière immanente, eh bien, tout en recevant cette injonction, il la dépasse, car pour lui, la vocation de tout discours, c'est effectivement de dire quelque chose du monde à quelqu'un, et par conséquent ici à un lecteur. Et donc il se pose la question phénoménologique, finalement, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la lecture ? Et l'expérience de la lecture, c'est une expérience de l'altération. C'est-à-dire que sinon, elle ne vaut rien. Si la lecture n'est que la confirmation de mes attentes qui précèdent la lecture, mes attentes psychologiques, politiques, philosophiques, que sais-je, imaginaires, eh bien, la lecture n'est pas un événement. Elle ne devient un événement que lorsque la lecture, précisément, démentit, modifie mes attentes, mais modifie ce que les phénoménologues appellent techniquement mes protentions, c'est-à-dire ce que j'attends de l'avenir, d'une certaine manière. Et lorsqu'une phrase m'entraîne littéralement, Ricoeur utilise la métaphore du voyageur, lorsqu'une phrase ou un récit m'entraîne au-delà de ce que je pensais comprendre, percevoir ou attendre. C'est à ce moment-là que le récit devient véritablement porteur d'un monde. Et dans le très beau texte de Proust que vous avez cité, il dit à la fin « Le récit ne doit pas, mon œuvre, mon livre, ne doit pas être simplement une cathédrale, mais une robe. » Qu'est-ce que c'est qu'une robe ? C'est ce par quoi je peux m'habiller. Eh bien, ça, c'est une question hautement ricœurienne. Dans quelle mesure le monde dessiné par le récit est un monde que je peux habiter ? C'est-à-dire un monde dans lequel le lecteur va pouvoir projeter, c'est possible, comme le dit Ricoeur, c'est-à-dire non plus simplement un monde fictif, un monde imaginaire au sens dépréciatif du terme, mais un monde qui va rentrer en concurrence avec le monde réel, et de cette concurrence entre le monde réel et le monde imaginaire, peut naître, naît souvent même, de nouvelles manières de percevoir, de nouvelles manières de comprendre et de nouvelles manières d'agir.
Quelle place joue dans cette conception du temps et la nécessité du récit pour dire le temps ? Le temps, cette fois-ci, non plus intérieur, intime, ni même le temps en soi, mais le temps historique, puisque Ricoeur y accorde une grande part dans ces trois volumes, hein, le temps et récit. Le temps historique paraît complètement différent de l'expérience du temps que nous pouvons en faire, puisqu'il est toujours d'emblée une forme d'intrigue, déjà de mise en récit, c'est ce que dit l'historien Paul Venn. Hein.
Effectivement, le temps de l'histoire, ça serait ce qui correspondrait à la conception a priori cosmique du temps, c'est-à-dire le temps, c'est le temps du monde, c'est le temps extérieur, c'est le temps sur lequel je n'ai pas prise. Mais tout le projet de Ricoeur, c'est de montrer, contre une certaine perspective, celle de l'école des annales, en particulier contre l'historiographie qui n'est pas une historiographie événementielle, qui prétend temps, c'est le grand livre d'ailleurs admirable de Brodel sur la Méditerranée, qui fait intervenir le climat, la géographie, la période longue, c'est-à-dire qui rompt avec l'idée que l'histoire raconte des histoires.
L'importance du temps long en histoire.
Du temps long. Et surtout, déprécie l'importance des personnages, des acteurs de l'histoire au profit des masses sociales, politiques, économiques, économiques surtout, et culturelles. Bon. Eh bien, Ricoeur, tout en recevant, c'est son côté œcuménique, tout en recevant la force de cette interprétation, tient tout de même à montrer qu'il y a du récit, même dans l'histoire la plus apparemment étrangère à cette notion, que la Méditerranée de Brodel, c'est un personnage. Et que par conséquent, certes, l'histoire se distingue de la fiction, fondamentalement, parce que l'histoire nous fait référence à un événement réel, mais un événement passé, alors que la fiction ne fait pas référence au réel. Et toute la thèse de Ricoeur, c'est de dire que pour accéder au passé, qui est tout de même passé au sens où il a eu lieu, donc il est réel, mais il est irréel en tant qu'il est passé, eh bien, pour nous faire accéder au passé, nous disposons encore et toujours de cette faculté qu'est l'imagination. C'est-à-dire que lorsque je lis un texte historique, cette fois-ci, eh bien, l'imagination, tout en tenant au réel, c'est-à-dire ce qui m'est raconté, je dois y croire, je dois croire que cela s'est passé, c'est le pacte de lecture spécifique entre le lecteur et le livre d'histoire ou l'historien, eh bien, c'est seulement par l'imagination que je suis capable de configurer le monde qui m'est raconté. Et cela a une portée politique aussi, éthique et politique, je dirais, parce que cela veut dire que, et là on retrouverait peut-être Paul Venn, le passé n'est pas figé en quelque sorte ni dans le réel, ni dans les récits qui en sont faits, ni dans les livres d'histoire. Il est à chaque fois réinvesti par les lectures et par conséquent, toutes les fixations de l'origine sont, ou devraient être du moins, remises en cause par l'acte même de lire.
Voilà, là je renvoie au texte inédit de Paul Ricoeur qu'on trouve dans la revue Esprit, Vers la Grèce antique. La revue d'ailleurs s'appelle Paul Ricoeur, la pensée sans nostalgie, et ça va exactement dans le sens de ce que vous venez de dire. Pour penser le passé, il faut non pas le considérer comme étant déjà passé, mais comme étant un irréel qui du coup serait aussi le lieu d'une forme d'imagination. Imaginer le passé pour pouvoir en parler.
Voilà, je dirais pas le lieu d'une invention, ça serait peut-être la différence avec Paul Venn, d'une construction purement nominale ou langagière, mais le lieu assurément d'une réinvention ou de ce que Ricoeur appelle une reconfiguration. C'est-à-dire, dans le texte sur la Grèce, il se pose la question de savoir, question assez actuelle d'ailleurs, pour d'autres raisons, ce que la Grèce signifie, la Grèce antique bien sûr, ce que la Grèce signifie pour la constitution de l'identité européenne, et en particulier comment les philosophes allemands, il y a toujours, l'Europe, ça se joue toujours entre la Grèce et l'Allemagne, d'une certaine manière, même en philosophie, pas seulement en philosophie, comment les philosophes allemands comme Hegel et d'autres ont réinterprété la Grèce. Et ce qu'il essaie de, la Grèce antique, et ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs Grèces, d'une part, il y a la Grèce classique, il y a la Grèce archaïque, à chaque fois l'imaginaire reconstitue, au fond, reconstitue la Grèce dont nous avons besoin, c'est le présent qui, d'une certaine manière, c'est son instauration, ça c'est son inspiration nietzschéenne à Ricoeur, ici, dans ce texte, c'est le présent qui commande notre manière de recevoir le passé, mais ce qu'il montre, et qui est une leçon peut-être plus importante pour aujourd'hui, ou pour d'ailleurs pour tous les temps, c'est qu'en réalité, il y a une pluralité des origines. On ne peut pas décider, fixer historiquement une origine qui serait celle de l'identité européenne, l'identité grecque, parce que la Grèce, nous l'avons perdue. Elle n'existe plus qu'à travers les récits qui nous en sont faits, et à travers les traces que nous en avons, des textes bien souvent, ou des œuvres d'art, mais que le moment de la lecture, le moment de l'interprétation, est un moment qui n'est pas un moment fixé pour toujours, qui réinvente en quelque sorte l'origine, en sorte que, et là c'est la dialectique qu'il fait intervenir dans le texte qu'on publie dans Esprit, la dialectique entre la mélancolie ou la nostalgie d'un côté et le deuil, c'est-à-dire nous ne sommes plus des Grecs, nous avons perdu la grande ou la belle harmonie de la Grèce antique, mais plutôt que de sombrer dans la mélancolie, dans cette identification, que ce soit pour la Grèce ou n'importe quelle période du passé d'ailleurs, que pour cette identification à ce que nous avons perdu, qui est le destin mélancolique dont Freud parlait, de celui qui ne se remet pas en quelque sorte de la perte de l'objet d'amour, eh bien il reste une place pour le deuil qui n'est pas l'oubli, qui n'est pas du tout l'oubli. Le deuil, c'est le réinvestissement du sens, de la libido, dirait Freud, ou de l'imagination précisément, tout en retenant le fait que l'objet d'amour perdu, qu'il soit personnel ou qu'il soit culturel, méritait d'être aimé.
Tu te balances, compagnon, comme une tringle dans le vent, et le maroufle que l'on pense fout pas mal de tes chansons. Tu peux toujours t'en mitoufler pour la saison chez Gallimard, tu sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le camp, Villon,
Merci beaucoup, Michael Fessel, d'être venu nous parler de Ricoeur aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à la revue Esprit, consacrée à Paul Ricoeur, que vous avez dirigé, à Paul Ricoeur, La pensée sans nostalgie, et puis aussi à l'anthologie de textes, texte de Ricoeur, évidemment, que vous avez dirigé avec Fabien Lamouche. On la trouve en Poinçail.
On ne sait pas dans mon quartier qu'une balade en vers français, ça se fait sur deux sous de papier et sans forcément promener. La poésie fout le camp, Villon.
Je rappelle également, comme je l'ai fait chaque jour de cette semaine, que se tient en ce moment même un colloque consacré à Ricoeur, à l'occasion du centenaire de sa naissance, un colloque organisé par le Fonds Ricoeur. Vous trouverez les informations en ligne sur le titre des Nouveaux Chemins et sur le site du Fonds Ricoeur, colloque au cours duquel on pourra vous retrouver, Michael Fessel.
Ça se fout, une robe était pendue. Tu vois, rien n'a tellement changé à part le fait que tu n'es plus pour rimer les coups de pied au cul que nous ne savons plus donner. La poésie fout le camp, Villon. Y'a que du néant sous du néant. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Emmène-moi dedans ta nuit qui est pas frangine avec la loi. J'ordonne qu'après mon trépas, ce qui est écrit soit écrit. Y'a des corbeaux qui traînent ici peut-être, qu'ils n'ont plus de pain et je n'attendrai pas demain pour qu'ils aient un peu de ma vie. La poésie fout le camp, François. Emmène-moi, emmène-moi. Nous irons boire à Montfaucon, à la santé de la chanson.
Vous écoutez les Nouveaux Chemins de la Connaissance, France Culture. Il est 10h47, encore deux minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui vient nous parler, comme tous les jours, d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de Marx.
Exactement, je vous parle de L'or des images, art, monnaie, capital d'Isabelle Garot qui paraît aux éditions La Ville Brûle. Un comédien, par exemple, un clown même, est un travailleur productif, du moment qu'il travaille au service du capitaliste, c'est-à-dire de l'entrepreneur. Depuis Marx et sa critique capitaliste, comme vous l'aurez reconnu ici, notre époque est prompte à la critique de l'extension du domaine économique. Culture marchandisée, œuvres d'art vendues à des millions, cinéma de vitesse, exigences d'audience, entre autres. Et pourtant, l'art et la richesse économique sont deux réalités qu'en principe tout oppose. Que pourrait d'ailleurs bien avoir à faire la beauté avec l'argent ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de l'ouvrage de la philosophe Isabelle Garot. Parcours de l'art flamand à Andy Warhol et la marchandise, de Marx et sa critique peu connue de l'esthétique au décortiquage du système audiovisuel. On le découvre, l'art s'est toujours confronté à la richesse sous toutes ses formes, or, monnaie ou capital. Mais pas seulement en la légitimant, c'est-à-dire en devenant marchandise, mais aussi en la mettant en abîme. C'est par exemple le cinéma qu'on dit social. C'est aussi les peintres de la Renaissance qui jouaient avec l'image de la réussite sociale. Vous l'aurez compris ici, pas de réduction de l'art à sa dimension économique, ni de réflexion générale sur l'économie à partir de l'art. Là est d'ailleurs tout l'intérêt de l'ouvrage. Ne pas maintenir l'économie dans une position de surplomb par rapport à l'art, mais déceler, dans les œuvres elles-mêmes et les discours des artistes, l'effort de se penser dans un monde de la production et de l'échange, par soi-même, sans faire appel à un discours extérieur. Lisez donc L'or des images, art, monnaie, capital, une autre manière de comprendre toute la richesse de l'art.
En effet, c'est chez quel éditeur ?
C'est chez La Ville Brûle.
Merci beaucoup Géraldine. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai le philosophe Bruno Latour qui viendra nous parler de modernité et de mode d'existence des objets. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour et vous pourrez surtout la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission où toute l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h50 et restez-y car dans un instant, c'est l'heure de retrouver Martin Kénéen pour Grand Amphi. Bonjour Martin.